Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Auditeurs et téléspectateurs, vous nous suivez sur 74 radios et 3 télévisions à travers le Mali. Bonsoir à tous et bienvenue à ce forum de la presse. Ce soir, 3 thèmes. Bilan de l'année 2019, que faut-il retenir? Nouvel an, le discours d'Ibeka est-il rassurant? Et Front social, à quoi faut-il s'attendre en 2020? Ce sont les thèmes qui seront débattus par 2 journalistes sur ce plateau. Souleymane Drabo, chargé de cours à l'École supérieure de journalisme et de communication de Bamako, il est au téléphone, et Mohamed Attaher Alidou du groupe Renouveau. Je suis Mouhamadou Touré, bonsoir à tous et bienvenue à ce forum de la presse.
Le Grand Dialogue.
Le premier thème qu'on va aborder, il s'agit du bilan de l'année 2019. Aujourd'hui, Mohamed Attaher Alidou, que pensez-vous de l'année 2019 en termes de bilan concernant le domaine de la gouvernance au Mali?
Ok, merci Mamadou Touré. Avant de parler du bilan de l'année 2019, permettez-moi d'adresser mes meilleurs voeux à l'ensemble de vos auditeurs, des téléspectateurs qui suivent cette émission, cette belle tribune de la presse malienne. Donc mes voeux le meilleur à tout le peuple malien, que cette année soit une année de prospérité et d'une gouvernance et une gouvernance vertueuse. Maintenant, par rapport à l'année 2019, uniquement sur la gouvernance, ou bien c'est...
Faites une analyse globale. On va aller sur les différents aspects.
Donc je pense que c'est l'année 2019 a été une année particulièrement difficile pour le Mali. Ça a été une année meurtrière, une année où le contexte a été vraiment marqué par des attaques à répétition. C'était vraiment une année difficile, si on peut le dire, et puis sur plusieurs fronts, sur le front social. Le front social était en ébullition. Il y avait aussi... le front social était en ébullition. La gouvernance aussi, il y a eu vraiment des remous sociaux. Et puis, ça peinait à bouger. Les lignes ont tardé à bouger. Il y avait aussi des querelles, des positionnements politiques qui ont vu le départ de Samuel Boubé Mega. Et tout dernièrement aussi, on a vu l'audio de Salif Keïta, le chanteur Salif Keïta adressé à Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, il l'interpellait, il demandait de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la gestion de la crise du Mali. Voilà, donc ça a été quand même une année très mouvementée. Ça a été une année difficile. Ça a été une année de défi aussi. On a vu quelques lières d'espoir à la fin de l'année avec cette opération de lutte anticorruption lancée par le ministre Malick Coulibaly. Donc il y avait une lière d'espoir et aux dernières heures de cette année qui a été quand même particulièrement difficile à mon avis.
Quand vous analysez en 2018 et 2019, pensez-vous qu'il y a eu une évolution positive ou rien n'a changé?
Bon, il y a eu des évolutions. Il y a certainement une évolution dans certains domaines. On ne peut pas cracher pour dire qu'on ne peut pas peindre le tableau en noir. Il y a eu des acquis dans certains domaines, mais il y a eu... J'ai dit que le contexte a été difficile. Le contexte de l'année 2019 a été une année difficile, et parce qu'on a perdu beaucoup des hommes, surtout les hommes en uniforme. C'est les théâtres d'opération. Ça n'a pas été facile.
D'accord. Voilà. Souleymane Drabo, quel bilan faites-vous de l'année 2019 au Mali?
L'année a été très, très, très dure. Sur tous les plans. Mais si on veut un peu entrer dans les détails, moi je retiens d'abord en politique intérieure, une espèce de politique intérieure, je veux dire la politique même, le social, une espèce de surplace. On se souvient qu'en début 2019, il y avait tout un programme pour organiser les législatives, le référendum, les sénatoriales, les régionales, les locales, je parle d'élections bien sûr, et que ce programme a été annulé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en début 2020? On revient à la case départ, on nous reparle encore d'organisation de ces mêmes scrutins, de ces mêmes consultations. Sur le plan social, idem, on a vécu une année 2019 vraiment tendue sur le plan social, avec une grève des milieux scolaires qui a failli gâcher l'année. Et en début 2020, on revient à la case départ, on repart comme si on repartait à zéro, et avec la même crise qui reprend de la vigueur. Ça, c'est sur le plan de la politique intérieure. Sur le plan sécuritaire, on peut analyser les choses en voyant qu'il y a eu deux parties dans cette année 2019. Au début de l'année, on a vu avec... L'année d'abord a commencé avec un massacre à Sobané, et ça s'est poursuivi au Gosavu avec d'autres tueries. Donc c'était... Les violences étaient plutôt indexées intercommunautaires et dans une première partie. Même dans la deuxième partie de 2019, ça a changé de tout au tout parce que les groupes armés terroristes se sont organisés, pour cette fois, sans prendre aux forces armées de sécurité. Et c'est là où on a assisté à beaucoup de grosses attaques de camps avec des bilans très très lourds qui ont assombri la fin de l'année. Donc je pense que même s'il y a un contexte général d'années difficiles, quand on rentre dans les détails, on voit qu'il y a des nuances et qu'il y a des leçons à tirer de tout ça.
Et justement, si vous devez faire aujourd'hui un bilan de la gouvernance de façon plus spécifique, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la gouvernance au Mali, elle est satisfaisante?
Bon, mais ça c'est une question très vaste. C'est une question très vaste. Si on prend par exemple le social, je pense qu'on va, c'est peut-être dans votre plan d'émission de revenir dessus, mais si on prend le social, on s'aperçoit que la résurgence des mouvements syndicaux en début d'année, malgré la demande de trêve qui a été émise lors du dialogue national inclusif et qui a été reprise par le président de la République dans son discours, on voit que la résurgence vient de promesses qui ne sont pas tenues. Donc, il y a vraiment des problèmes de gouvernance ici. Sur le plan, idem sur le plan de la sécurité, parce que quand on regarde le bilan de l'année, on s'aperçoit bien que le gouvernement, les autorités, le gouvernement en général, les autorités locales, les instances militaires, les gens ne sont pas innocents dans tout ce qui est arrivé. Je veux dire que tout ce qui devait être fait ne l'a pas été fait et ne l'a pas été bien fait. Voilà.
D'accord. Qui sont les responsables de cette situation, selon vous, Attaré ?
Et Mamadou Touré, je pense que cette situation, cette mauvaise gestion des affaires publiques, incombe en premier lieu au premier responsable du pays, qui est le président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, parce que c'est lui que les Maliens avaient élu pour prendre en main la gestion des affaires. Donc, si quelque chose ne va pas, c'est-à-dire les regards sont, c'est-à-dire a priori braqués sur le premier responsable du pays.
Vous avez appelé la solution. La solution.
Oui, bien sûr, parce que c'était quand même lui qui doit fixer le cap. Il doit fixer le cap. Mais je dis que le contexte a été difficile. C'est le contexte a été difficile parce que je reviens un peu sur quelques moments qui m'ont un peu marqué personnellement pour l'année 2019. On a vu le religieux, l'émergence du religieux sur la scène politique malienne. On a vu Mahmoud Diko en premier lieu. En premier, il était là, il était présent. Au moment où les politiques dormaient, se couchaient, il était là, il a pris ses responsabilités à main. Et on peut dire que...
L'implication des religieux dans la politique, est-ce une bonne chose ou une mauvaise
chose? Bon, je peux dire que si l'implication des religieux sur la sphère publique, sur la scène politique, quelque part, c'est la faillite du politique malien. C'est la faillite du politique malien. On a des politiques maliennes malheureusement médiocres, piètres politiques, qui n'ont pas de vision. Donc s'ils ont échoué à donner satisfaction aux vrais problèmes du pays, normal, la nature a horreur de vide. C'est comme ça, les religieux sont venus prendre ce terrain-là, l'espace public. Donc ils ont leur mot à dire dans l'espace public, parce que ce sont des citoyens comme vous et moi. Maintenant, j'ai dit que j'ai salué cette implication personnelle de ces deux imams, Mahmoud Diko et le shérif du Nourou. Ils ont joué un rôle assez important et ils ont même reçu avoir la tête du Premier ministre Soumaïl Boubaï Mega. Donc ça, c'était un fait important, un fait marquant vraiment de l'année 2019, où les fondements même de l'État étaient remis en cause. Où on voyait les religieux donner un ultimatum au président de la République ou au gouvernement ou à l'État tout court. Donc on voit que le fondement de l'État était menacé. Donc c'était une année particulièrement difficile pour le Mali. La gouvernance n'était pas une gouvernance exemplaire. Vous avez demandé si elle est satisfaisante, elle n'était pas satisfaisante. Mais maintenant, j'ai dit au dernier moment de l'année 2019, on a vu quelques actions timides de lutte contre la corruption. Mais encore une fois, que ce soit une lutte qui sera menée à fond, que ce ne soit pas vraiment une lutte sur fond de règlement règlement de compte et que la justice puisse faire son travail et que les délinquants financiers puissent répondre à leurs actes. Mais de tous les délinquants financiers, pas seulement d'un camp contre un autre. D'accord. Ça ne doit pas être une justice sélective. Mmh.
Souleymane Drabo, quel est votre avis sur cette implication des religieux sur l'espace public?
Moi, je trouve que c'est triste. C'est quand même triste pour les idées qui avaient été développées en mars 91 et pour la démocratie qui a été mise en place à cette époque-là, parce que il y a aujourd'hui un vrai déficit de leadership et un vrai déficit de crédibilité du monde politique. Et le monde politique non seulement n'est pas capable de gérer en toute responsabilité les affaires de la cité, mais ensuite cette classe politique, c'est elle qui a fait le lit et qui a ouvert la porte aux religieux pour qu'ils s'engouffrent dans la gestion des affaires de la cité. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment malheureux, mais c'est de bonne guerre. C'est toujours des luttes de pouvoir. Et les religieux, de tout temps, même au moment de la conférence nationale dans les années 91, les milieux religieux déjà avaient voulu s'impliquer dans le domaine politique et ils avaient été bloqués à l'époque. Mais aujourd'hui, les héritiers de mars 91 n'ont pas l'envergure des gens de l'époque.
Dans le domaine sécuritaire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Mali, la force G5 Sahel, toutes ces forces qui sont présentes dans le pays peuvent changer quelque chose aujourd'hui?
Non, on constate que non. On constate que non. Tous les résultats militaires et les défaites enregistrées durant ces derniers mois, non seulement au Mali, mais au Burkina Faso et même au Niger, qui avait la moins mauvaise réputation militaire dans le secteur, montrent que les forces ne sont pas encore à la hauteur des enjeux et que en face des armées nationales, il y a des groupes terroristes qui ont une très grande faculté d'adaptation et qui visiblement ont reçu des renforts aussi bien en armement qu'en experts par la filière libyenne. Donc aujourd'hui, avec un G5 Sahel qui tarde toujours à être opérationnel parce que les financements n'arrivent pas, le matériel n'arrive pas, la coordination ne se fait toujours pas, et avec des armées nationales qui, comme au Mali ici, qui ont besoin de temps pour se former, pour s'équiper, et alors que le temps est la denrée qui est la plus rare dans le domaine sécuritaire. Non, pour l'instant, on ne fait pas le poids du tout.
Les autorités maliennes et les partenaires se sont-ils plus concentrés sur l'aspect militaire pour faire face à cette crise?
Oui, je pense que c'est l'aspect militaire. Hein, le tout militaire ne résout pas la question. Mmh. Parce que cette lutte contre le terrorisme, il faut aussi c'est le renseignement. Et maintenant, c'est à ce niveau que les partenaires ne jouent pas franc jeu. Parce que la France et puis tous les autres partenaires, ils ont des moyens puissants, des moyens très sophistiqués, des moyens de renseignement assez avancés. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas de sincérité dans la collaboration, dans le partenariat. Donc aujourd'hui, on voit que les terroristes gagnent du terrain. Il y a même le président Mamadou Issoufou qui dit qu'ils sont devenus des spécialistes de l'art de la guerre. Ils sont même dans une stratégie territoriale. Ils prennent c'était le Burkina, le Niger, le Mali. Le Mali a été frappé sérieusement cette année. C'était Guiré, et Djoura, et Boulekessi, Ndeliman, Tabankorte, pour ne citer, où vraiment c'était le Mali a payé le lourd tribut dans sa lutte contre le terrorisme. Donc quelque part, parce que il y a un problème d'hommes, il faut le dire. C'est pas seulement les équipements, mais il faut aussi c'est un problème d'hommes en ce qui concerne le Mali. L'excellent confrère Drabo l'a dit. Nos armées sont sous-équipées, souvent même mal entraînées, mal formées. Donc, ils ne font pas le poids face à ces terroristes bien aguerris et souvent qui ont aussi. Et qui sont parmi nous, qui ont le renseignement et puis ils déstabilisent nos positions. Donc, maintenant, il faut plus de collaboration, plus de sincérité dans la collaboration et plus de moyens alloués à ces forces de sécurité et de défense pour venir à bout de la lutte contre le terrorisme. Donc, d'où l'interpellation de Salif Keïta, le chanteur, le célèbre chanteur, qui a interpellé et il a même accusé la France, son président, d'être à l'origine des tueries dans le nord du Mali. Il dit qu'il n'y a pas de terroristes et que c'est la France qui instrumentalise cette guerre-là. Donc, pour vous dire, à tort ou à raison, parce que c'est pour dire, bon, il dit ce que pensent la plupart des Maliens. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons une collaboration vraie, une collaboration sincère pour venir à bout du terrorisme.
Justement, pensez-vous que ce sentiment anti-français ou anti-politique français qu'on est en train de constater de plus en plus au Mali comme dans d'autres pays du Sahel, est-ce que ce sentiment est justifié?
Bon, ce sentiment se justifie par rapport à la situation ambiguë de la France. Parce que, rappelez-vous que le drapeau français, le bleu, blanc, rouge, a été vendu au Mali comme du pain. L'intervention française de l'opération Serval, le peuple malien a s'allié de deux mains. Donc aujourd'hui, si la donne a changé, si le regard a changé, c'est quelque part parce que les gens ne comprennent pas la position de la France. Et c'est le contraire, c'est la France qui demande aujourd'hui à nos chefs d'État de clarifier leur position. Mais nous, et de la société civile malienne ou de l'opinion publique africaine, nous demandons aussi à la France de clarifier sa position en ce qui concerne par exemple la gestion de Kidal. Tout simplement.
Ok. Alors, Souleymane Drabo, les Maliens doivent-ils demander à la France de clarifier sa position ou demander aux autorités maliennes de clarifier leur position par rapport à cette situation?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus dans cette histoire. Et elle a démarré effectivement par l'épisode de Kidal où l'armée française est partie en solo et libérer la ville et où l'armée malienne n'a pas pu l'accompagner comme à Kao et à Tombouctou avant. Donc tout a démarré là-bas, effectivement. Et mon prédécesseur, il a raison de rappeler que le sentiment anti-français, il est né un peu de cet épisode-là, beaucoup d'ailleurs de cet épisode-là. Mais il faut rappeler aussi que le sentiment anti-français, il est plutôt ancien dans notre pays. Il est lié à la lutte pour l'indépendance, il est lié aux premières années de l'indépendance, à la création du franc malien. Il y avait un fort sentiment anti-français déjà à l'époque, que Serval était arrivé à gommer, parce que vraiment la population avait accueilli avec enthousiasme l'intervention française en 2013. Mais par la suite, il y a une série de maladresses françaises qui a provoqué un retournement des situations. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses sont assez compliquées, aussi bien pour le gouvernement français que pour les gouvernements africains, parce que chacun est confronté à des problèmes de politique intérieure qui le poussent à mettre la pression plutôt sur l'autre que sur soi-même. Je pense que lors on l'a vu, on le voit dans le discours du président, le discours du gouvernement du président, parce qu'il est plutôt très ambivalent. Il veut à la fois demander à la population malienne de faire preuve de gratitude envers les forces étrangères qui viennent mourir au Mali, ce qui est normal. Mais de l'autre côté, il a des accents nationalistes pour mettre l'accent sur la fierté malienne et tout ce qui est normal aussi. Donc, aussi bien Macron qu'Ibeka dans le cas d'espèce, je ne parle pas du Soufi ou bien du président Burkinabé, sont tiraillés entre la nécessité de gérer leur opinion intérieure et la nécessité de sauvegarder la coopération internationale.
Justement, et on va aborder le second thème du Grand Dialogue, ce discours du président de la République à l'occasion du Nouvel An. Est-ce qu'il est rassurant pour vous, Souleymane Drabo?
Rassurant, non, je pense que le président lui-même, est-ce qu'il avait envie de rassurer les gens par ce discours-là? Il a essayé de rassurer un peu au début sur la partie économique, le bilan économique qu'il a brossé. Mais par la suite, je peux dire qu'il a voulu plutôt dramatiser les enjeux en mettant l'accent sur la guerre qu'il avait annoncée depuis longtemps, sur la nécessité de protéger les différents partenariats qui nous aident à nous défendre sur le plan militaire et sur le dialogue national. Donc, je veux dire que bon, c'était plutôt ambivalent. Il a dramatisé d'un côté et il a voulu se montrer optimiste d'un autre côté en disant que les résolutions et les décisions du dialogue national allaient nous permettre de sortir en partie du bourbier dans lequel on est enfoncé depuis quelque temps.
Mohamed Attaï, quel est votre point de vue sur ce discours
du président ? Oui, le discours du président de la République, ce n'est pas un discours nouveau. Mmh. Ce n'est pas un discours nouveau. Je dirais même que c'est du réchauffé. C'est juste quelques termes qui changent. Il a appelé à l'unité nationale, à l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel. Donc ça, c'est bon. C'est bon pour le contexte actuel, parce qu'il faut aujourd'hui que les Maliens parlent le même langage, hein, parce que le pays aujourd'hui, il va mal. Donc on doit parler le même langage, regarder dans la même direction pour sauver le Mali. Donc à ce niveau-là, on peut dire que ce message d'apaisement, ça peut réconforter, ça peut être apaisant, ça peut être réconfortant ou même rassurant. Sinon, dans le reste, il parle de la croissance. Maintenant, la croissance, il y a des gens qui disent que la croissance ne se mange pas.
Justement, il dit l'économie nationale se révèle d'une remarquable résilience avec un taux de croissance économique annuel de 5% depuis 2013. Nos recettes augmentent et nos dépenses publiques sont de plus en plus maîtrisées.
Oui, il est dans la communication, tout simplement. Hein. C'est comme un président qui fait... C'est un discours campagne, hein. C'est un discours campagne. Donc, et puis il dit qu'il mesure la gravité de la situation, qu'il comprend les couleurs, qu'il comprend la misère plus loin, hein, qu'il comprend la pauvreté des Maliens. Donc ça ressemble plutôt à un discours de campagne, quelqu'un, un président qui cherche à rassurer. Sinon, ils sont nombreux, hein, je ne suis pas spécialiste de la communication, mais les spécialistes disent que la croissance ne se mange pas. Le panier de la ménagère aujourd'hui, il est vide, hein, il a même place, il n'y a même pas de panier. Aujourd'hui, c'est un sachet noir, hein, pour cacher de plus en plus un contenu très maigre. Ce n'est même pas le panier. Le panier a disparu pour le sachet noir. Donc c'est juste une métaphore que j'utilise, un peu caricature tout ça, mais aujourd'hui les Maliens ne vivent pas mieux. Donc c'est vrai peut-être que ça sont des indicateurs, mais aujourd'hui il faut reconnaître que la pauvreté est là, elle est là, c'est une réalité, c'est une évidence. Donc le président doit sortir de ces discours-là et essayer de répondre aux vraies aspirations du peuple malien. Donc maintenant, l'autre point intéressant ou rassurant, c'est qu'il dit qu'il va mettre en exécution, et il se porte garant pour mettre en exécution les résolutions ou recommandations du dialogue national inclusif. Donc là, on va le prendre au mot. S'il arrive à le faire, tant mieux, ça serait une bonne chose. Donc sinon, pour le reste, je pense que c'est juste d'y réchauffer, quoi.
Et l'utilisation des sachets plastiques est également regrettée par les écologistes aujourd'hui. Alors, Monsieur Souleymane Drabo, est-ce que vous pensez que cette remarquable résilience de l'économie nationale qui est soulignée par le président de la République est sentie par le citoyen lambda?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est l'éternelle question des arguments macroéconomiques par rapport au quotidien des gens. Il y a un décalage. Il y a toujours un décalage dans le discours et les arguments qui mettent en avant les performances macroéconomiques du pays et le ressenti de la population au Mali ici. Le ressenti de la population, c'est en fait ce qui fait le sel de la politique, si vous voulez. Parce que c'est vraiment ce que pense la population. Et la population pense que le pays est vraiment en crise, que l'argent se fait rare, que les difficultés du quotidien ne cessent de grandir. Donc les arguments du président, ça tombe un peu en porte-à-faux avec le sentiment général de la population.
Alors, qui profite de cette remarquable résilience?
Bon, mais c'est un argument politique. L'argument politique, c'est que le pays est bien géré. C'est ça l'argument qui est développé dans le discours présidentiel.
Est-ce le cas? Est-ce que le pays est bien géré?
Non, je dis que c'est les arguments qui sont développés dans le discours présidentiel. Et le discours présidentiel, c'est un discours politique, c'est de la communication politique. C'est pour montrer à la population que non, malgré la situation des guerres, malgré le fait qu'un quart des ressources publiques maintenant sont allouées au budget de la défense, le pays reste bien géré et le pays, disons, est performant au niveau sous-régional, ce qui est confirmé par l'UEMOA d'ailleurs. N'est-ce pas? Mais voilà, comme toujours, ça tombe à côté parce que ce n'est pas le sentiment de la population.
Le Mali est l'un des pays les moins endettés de l'Afrique de l'Ouest, a déclaré le président de la République aussi. Mais est-ce que le Mali est l'un des pays les moins corrompus de l'Afrique de l'Ouest?
Très belle question, Mamadou Touré. Donc je pense que c'est aujourd'hui sur le plan de la gouvernance. Bon, c'est vrai que depuis L'arrivée du Premier ministre Bobo Cissé, il faut reconnaître que les lignes commencent à bouger, ça il faut le dire, hein. C'est au crédit du gouvernement et c'est un ministre qui bouge beaucoup, il est sur le terrain, il va à la rencontre des populations, donc il y a quelques actions timides, hein, ça et là. Donc, mais maintenant, est-ce que le Mali est premier sur le terrain de la lutte contre la corruption, ça c'est notre débat. C'est vrai qu'un sentier, un vaste sentier est ouvert, une vaste opération de lutte anti-corruption est lancée par le ministre Malik Koulibaly, qu'on sait très intègre. Mm-hmm. Maintenant, où est-ce que cette lutte va aller jusqu'où? Ça, c'est aussi une autre question. Mais j'ai dit, cette lutte-là doit aller jusqu'au bout et que ça ne doit pas seulement être le menu fretin, quoi. C'est juste ça.
Yeah. Alors, M. Drabo, vous, que pensez-vous de cette lutte de la corruption au Mali?
Effectivement, hein, c'est toujours le problème du leadership. Qui apparaît dans ce genre de problème. Est-ce qu'il y a des dirigeants qui sont assez déterminés pour prendre la responsabilité d'engager la lutte contre la corruption? Et effectivement, l'arrivée du ministre Malik au gouvernement a rassuré les gens sur ce point, comme la nomination d'un procureur qui semble très déterminé à faire avancer les dossiers. Maintenant, est-ce que l'institution judiciaire elle-même est assez outillée moralement et techniquement pour s'attaquer à tous les dossiers économiques qui se sont accumulés au fil des ans? Ça, j'en doute un peu. Est-ce que la volonté politique des autorités d'appuyer le ministre dans la lutte anticorruption qu'il vient d'engager, malgré les conséquences possibles sur le monde politique et malgré les conséquences possibles sur les fonctionnaires, sur le monde des affaires ici, est-ce que cette volonté politique va perdurer? Pour l'instant, le président la garantit. Maintenant, si la lutte doit aller beaucoup plus loin, on peut se poser des questions aussi sur est-ce que le ministre bénéficiera toujours des soutiens qu'il possède aujourd'hui.
Et certains estiment que cette lutte devrait commencer au sein du gouvernement, même à travers une déclaration des biens du membre du gouvernement et ainsi que du président de la République.
Oui, mais quand on prend la situation de 1992 et celle d'aujourd'hui, on voit qu'il y a un recul net dans ce domaine. Parce que vous vous souvenez qu'en 1992, quand Alpha Conaré est arrivé aux affaires, la déclaration des biens du président de la République, comme celle de tous les ministres, a été rendue publique. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça. Les déclarations publiques sont déposées à la Cour suprême et enfermées dans un coffre-fort là-bas. Personne ne sait. Personne ne donne la garantie que ces déclarations de biens sont vérifiées chaque année pour voir si elles sont correctes et si elles augmentent ou non. Donc il y a un recul par rapport à 92. Déjà, rien que sur ce plan-là. Donc, ça vaut la peine de se poser des questions.
Dans son discours, le président de la République a également parlé de pauvreté et précarité, chômage et entrepreneuriat jeune, eau potable et électricité, santé, éducation et sécurité, bien évidemment. Il a également déclaré que « je ferai tout mon possible pour diligenter la mise en œuvre des résolutions et recommandations validées autour de ces sujets qui ont été abordés au cours du dialogue national inclusif. Et de la même manière, je veillerai à ce que le mécanisme de suivi que le Forum a souverainement souhaité mettre en place dans son format et dans ses missions puisse travailler en toute indépendance. Est-ce que ça vous rassure, Mohamed Atta?
Oui, mais c'est le verbe ne rassure pas. Il faut des actes. Hein. C'est vrai que le président nous a habitués à des discours à chaque fois. Maintenant, le peuple malien veut des actes. C'est sur les actes qu'on peut le juger. Maintenant, sinon sur les discours, il y en a eu beaucoup. Donc maintenant, on attend pour 2020 plus d'actions et moins de discours.
Voilà. Ce que le dialogue national inclusif a voulu et qui est conforme à nos lois, le gouvernement le voudra, le chef de l'État le voudra. Souleymane Drabo, peut-on dire que ce qui a été abordé au cours de ce dialogue national inclusif était méconnu des gouvernants?
Non, pas du tout. Tous les sujets abordés par le dialogue, c'est des sujets très présents dans l'actualité quotidienne. Et toutes les résolutions qui ont été prises par le dialogue étaient des résolutions déjà attendues sur ces problèmes connus. Donc, le Premier ministre lui-même l'avait déjà annoncé depuis septembre qu'il allait prendre les résolutions du dialogue pour en faire la charpente, si vous voulez, de la déclaration de politique générale qu'il n'a pas encore faite à l'Assemblée et qu'il devrait faire incessamment. Donc, lorsque le président annonce que le gouvernement va mettre en œuvre ce que le dialogue a décidé, je pense que ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Ce serait même quelque chose de normal parce que ça rentrerait dans un programme classique du gouvernement dans le contexte actuel du Mali. Et même le fait qu'il y ait une instance indépendante qui va être chargée du suivi des résolutions, que le gouvernement accepte que cette instance contrôle n'a rien d'étonnant non plus, parce que de toute façon, l'Assemblée nationale est déjà là, qui devrait contrôler. S'il y a une instance supplémentaire pour contrôler, bon, il y aura un double contrôle, c'est tout.
Alors, il a également estimé que certains sentiments exprimés via les réseaux sociaux, certains articles de presse ou par des voix connues demeurent préoccupants car il est essentiel, voire vital, de ne pas se tromper d'ennemis. Y a-t-il des gens sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui se trompent d'ennemis?
Bon, c'est pas le président de la République, c'est pas son rôle de contrôler tout ça. Nous sommes dans une démocratie, et dans une démocratie, c'est la pluralité des opinions, c'est la diversité des opinions. Donc, il n'a pas à se soucier que les gens... Par exemple, ça, c'est juste, il fait allusion à ceux qui aujourd'hui fustigent ou même dénoncent la complicité ou dénoncent, j'allais dire, le manque de sincérité de la France. Hein. Donc je pense que ces gens-là ont aussi leur mot à dire dans l'expression plurielle. Donc il ne doit pas se soucier de ça. Donc et puis il fait aussi allusion un peu, il dit à des voix connues, il fait allusion à Salif Keïta. Donc ça, il ne doit pas se soucier de ça, il doit juste poser des actes et puis le peuple va apprécier. Donc il ne doit pas se contenter de qui apprécie, de qui n'apprécie pas. Donc maintenant lui, il doit gérer les affaires il doit montrer une gouvernance vertueuse. Et le peuple est obligé à ce moment-là de suivre le pas. Donc il n'a pas à se soucier des humeurs, qu'est-ce que les gens pensent. Non, ça, ce n'est pas son souci. Donc il doit le sentir, il doit tenir compte et proposer une gouvernance vertueuse. Et c'est là qu'on peut avoir le sali et c'est dans ça qu'on peut avoir une solution pour le Mali. Sinon, maintenant, il faut juste dire maintenant aux gens de cesser de parler, de cesser de dire ce qu'ils pensent. Je pense que ça serait du gâchis, ça serait un recul pour notre démocratie.
Ouais. Front social, la situation a été inquiétante en 2019. Souleymane Dra en 2020, à quoi faut-il s'attendre?
Bon, si on en juge par la réaction des syndicats enseignants au discours du nouvel an du président de la République, il faut s'attendre à de nouveau du mouvement de ce côté-là, parce qu'il y a déjà 14 jours de grève, il y a une menace de 14 jours de grève qui est brandie. Et c'est 14 jours.
À partir du 6
Oui, je crois à partir du 13 ou du 14.
Les enseignants?
Oui, des enseignants du 21.
Le syndicat des enseignants, c'est à partir du 6 et il prévoit une nouvelle grève encore à partir du 21.
Voilà, c'est ça. Bon, mais même le nombre de jours de grève, c'est assez trompeur parce que c'est des grèves perlées qui ne prennent pas en compte les week-ends. Donc, ça fait 2-3 semaines de grève qui sont dont la menace est brandie. Donc, il faut s'attendre déjà à ce que les syndicats ne soient pas très intéressés ni par la grève sociale, ni par le forum social qui a été préconisé par le dialogue national. Mais ça aussi, ce n'est pas étonnant parce que déjà, en début 2019, lorsque Soumaïdou Bouveïmaï a été premier ministre, il avait annoncé la tenue d'un forum national. Et à l'époque, même l'UMTM et d'autres syndicats s'étaient débarqués de cette idée-là. Les syndicats avaient jugé que leurs revendications étaient déjà connues du gouvernement. Ils avaient des cahiers de revendications qui avaient été déposés, des négociations qui avaient débuté. Et donc, il n'y avait aucune raison de noyer toutes ces avancées dans un improbable forum social. Et je crois que c'est aujourd'hui, c'est la même attitude que les syndicats enseignants adoptent. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien à faire d'un forum national. Elles veulent que leurs revendications soient satisfaites.
Les enseignants ont-ils raison de rejeter cette demande de trêve du président?
Bon, je pense que les enseignants sont dans leur droit de poser des revendications. Les revendications sont légitimes, mais je pense que c'est une main tendue, c'est un clin d'œil que le président leur fait. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre qu'aujourd'hui que le pays est en crise, hein, le contexte est difficile. Donc si le président demande une trêve, je pense qu'en bon malien, ils doivent accepter cette trêve-là et aller plus tard à poser toutes les revendications sur la table de négociation. Mais pour le moment, je pense qu'il serait sage, hein, pour les enseignants. Je comprends les revendications, mais ce serait plus sage, hein, de la part de ces enseignants-là de répondre à cette main tendue à ce clin d'œil du président de la République, hein, en acceptant d'observer la trêve.
Mais en l'acceptant, ont-ils une assurance que leurs revendications
seront prises? Parce que le président demande la trêve sociale. Donc maintenant, c'est le président d'accompagner ça avec des mesures rassurantes, avec des garanties rassurantes. Et je pense que comme ça, on pourra... Parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on a frôlé l'année blanche. Cette année aussi, depuis janvier, qu'on commence déjà dans cette situation, dans ce tourbillon-là, je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose pour l'école malienne qui est déjà malade. Donc je pense que les enseignants doivent comprendre que le pays est en guerre, le contexte est difficile. Je comprends leurs revendications, mais ils doivent observer cette trêve, hein, demandée par le président, et au président de les rassurer pour trouver une solution.
Certains Maliens regrettent également que les enseignants pensent beaucoup plus à l'amélioration de leurs conditions de vie qu'à l'amélioration de la qualité de l'enseignement malien aujourd'hui.
Oui, c'est une réalité. Mais les deux vont ensemble, hein. Conditions des enseignants, parce que quand un enseignant est dans de bonnes conditions, c'est sûr qu'il pourra s'occuper de ses cours, hein. Il pourra préparer ses cours. Mais aujourd'hui, l'enseignant vit dans des conditions infrahumaines, hein. Ils sont nombreux, ces enseignants qui ne préparent plus les cours, hein, qui improvisent, hein. Je ne parle pas de ces enseignants, hein, qui aujourd'hui ont le sacerdoce, mais ils sont nombreux aujourd'hui aussi qui sont dans l'enseignement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc le métier n'est plus une vocation, ce n'est plus un sacerdoce. Donc aujourd'hui, il faut poser le débat et penser aux états généraux de l'éducation parce que l'école malienne aujourd'hui est malade. C'est parce que de tout temps, on cherche seulement à sauver une année, l'année scolaire, mais il faut sauver l'école parce que c'est l'école qui est malade.
Justement. Alors en parlant de niveau des élèves et également de niveau des enseignants, Souleyman Drabo, aujourd'hui, quel avenir pour l'école malienne?
Ça, une question très vaste qui n'a aucune réponse optimiste. Qui n'a pas de réponse optimiste parce que il y a effectivement, lorsqu'on examine le problème, il y a un problème de moyens, d'infrastructures, de personnel, de matériel. Mais il y a aussi, comme Mohamed l'a dit, il y a un problème de motivation, de conscience professionnelle et de compétences même des enseignants parce que la demande en éducation est très forte, comme on s'en aperçoit à la multiplication des écoles privées dans notre pays. La demande est très, très forte. L'État ne peut pas répondre à toute cette demande. Et de notre côté, l'offre n'est pas à la hauteur. L'offre n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur humainement, elle n'est pas à la hauteur matériellement. Donc, même si on fait des états généraux aujourd'hui de l'éducation, ça va être un peu comme le dialogue national. On va arriver à des réponses qui étaient prévisibles, mais pour lesquelles l'état actuel des choses, comme l'a dit le président, n'aurait pas les moyens de sa politique. Parce qu'on est dans un pays en guerre et que, bon, une très grande part des ressources va à cet effort de guerre. Et que l'État, par contre, est écrasé par de multiples priorités. Donc, c'est quasiment un cercle vicieux, si vous voulez. C'est la quadrature du cercle, en fait, le problème de l'école au Mali.
Et dans ces conditions, Mohamed Attaya, peut-on s'attendre à un citoyen lambda qui peut s'impliquer, comme il est demandé, dans la lutte contre l'insécurité que vit le pays aujourd'hui?
Bon, aujourd'hui, le tableau, il est noir, hein, le tableau de l'éducation malienne. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de citoyens avertis, malheureusement. Si le président demande à ne pas faire la confusion, à ne pas se tromper d'ennemi, c'est parce que nous n'avons pas de citoyens modèles, nous n'avons pas de citoyens... Le pays n'a pas de citoyens avertis, hein, qui peut comprendre aujourd'hui la mesure de la situation, la gravité, ou même comprendre les enjeux. Et donc, ça, c'est un vœu, c'est un vœu, et parce qu'aujourd'hui, l'école est en lambeaux, parce qu'il y a un lien entre citoyens avertis et l'école, la qualité de l'école. Dans d'autres pays, nous avons des citoyens qui participent activement à la gestion des affaires de l'État, qui contribuent aussi, souvent qui influent même sur les décisions des gouvernants, qui jouent les rôles de contre-pouvoir. Non, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de citoyens avertis, on n'a pas de citoyens. Nous avons des sujets, des gens qui ne comprennent pas et des gens qui suivent souvent et des cercles d'intérêt. Donc, l'école est malade, c'est un peu la conséquence de tout ça. Donc, nous pouvons faire que le vœu, nous pouvons formuler le vœu d'une école de qualité, pour retrouver des citoyens modèles qui peuvent penser à la sécurité, à la lutte contre la corruption et à tous les autres aspects de la vie de la nation.
Avec 24% des ressources budgétaires qui sont absorbées par la guerre au Mali, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ces ressources sont bien gérées ?
Touré, vous avez toujours cette facilité d'aborder des sujets qui fâchent avec un style propre à vous, assez intéressant que j'apprécie d'ailleurs. Et bon, je ne suis pas du gouvernement pour savoir si les ressources sont bien gérées, mais maintenant, je suis un observateur qui regarde un peu, mais je pense que toute cette somme qu'on annonce, il n'y a pas de résultat. Quand on juge, quand on regarde un peu les résultats, il n'y en a pas pratiquement. L'armée aujourd'hui, il n'y a pas de résultats. Donc maintenant, où va cet argent-là? Il faut faire l'audit de tout cet argent-là, de tous ces milliards-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il se dit souvent que les militaires maliens n'ont même pas de munitions. Donc on ne comprend pas ça. Il y a une loi de programmation militaire. Donc il faut se poser des questions. Et le président, il y a aussi une affaire qui défrait la chronique. C'est des avions, des aéronefs qu'on loue, ou même à friter. Je ne sais pas l'expression appropriée. Donc aujourd'hui, le malaise est le profond. Le malaise est là. Où va l'argent? C'est là la grande question.
Est-ce que c'est la même question que vous posez Souleymane Drabo? Où va cet argent?
Oui, en fait, c'est la question que l'opinion publique se pose, parce que le budget national, ce sont les impôts des individus ici et les recettes diverses de l'État. Donc, ce que l'on demande à l'État et au gouvernement, c'est un minimum de transparence, même si ce sont des affaires militaires, un minimum de transparence et de redevabilité dans l'utilisation des fonds. Les gens veulent savoir. Les gens sont prêts à payer plus d'impôts, à payer des impôts spécifiques pour sauver le pays. Mais il faut que, de l'autre côté, ils aient la garantie que cet argent est bien géré et est dépensé et à bon escient. Une garantie que l'on n'a pas aujourd'hui. Donc, le fait que les gens se posent la question sur où va cet argent, je crois que c'est une question légitime et normale.
En 2020, quelles devraient être les priorités du président de la République au Mali, selon vous?
Non, mais il les a. En fait, les priorités, tout le monde les connaît, et lui-même les a énumérées dans son discours. La première priorité, c'est la sécurité. On a beau dire que oui, la solution militaire ne suffira pas à régler le problème, mais il faut au moins assurer la sécurité des personnes, le retour de l'administration et des services sociaux de base dans les régions du centre et du nord du Mali. Donc ça, c'est une nécessité. C'est la première priorité si on veut aborder toutes les autres. Et toutes les autres, elles ont trait au social, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure. Elles ont trait à la modernisation du pays, même si aujourd'hui c'est une préoccupation lointaine, mais on vit dans un monde qui avance et nous, on ne peut pas nous permettre de stagner si on veut que nos enfants, plus tard, aient des chances dans un monde globalisé.
Paix, sécurité, emploi, lutte contre la pauvreté, est-ce que vous pensez que les attentes des Maliens pourront être satisfaits en cette année 2020?
Bon, on le pense profondément. Ça, c'est
mais vous, optimiste?
Bon, on observe. Nous, on n'est ni pour ni contre, on observe. Donc, si les résultats sont bons, on les juge, on apprécie. On apprécie et on aura l'honnêteté intellectuelle de dire que ici, ça a marché. Ici, ça n'a pas marché, ça c'est notre rôle. Donc on a le droit d'être optimiste et on pense que le président doit comprendre aujourd'hui que le peuple malien a des aspirations légitimes. Ce n'est pas seulement la crise, hein, parce que si au niveau de la gouvernance, il y a eu des lières d'espoir, ça pouvait apaiser le peuple. Mais c'est à ce niveau aussi, souvent, qu'il y a des problèmes. Donc, il doit gagner la bataille d'une gouvernance vertueuse. Donc maintenant, donner carte blanche ou les coudées franches au ministre Koulibaly pour qu'il puisse mener à bien cette lutte contre la corruption. Donc, si elle est bien menée, on pense qu'on pourra avoir une lière d'espoir, ne serait-ce que sur ce registre-là.
Merci, Mohamed Attayer. Alidou, du groupe Renouveau, et Souleymane Drabo, chargé de cours à l'École supérieure de journalisme et de communication de Bamako. Ce forum de la presse vous a été présenté par Mouhamadou Touré à la régie vidéo et audio, Seydou Ndao et Gagné Kanté. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Haloud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.